à l'onde des mots, lecture libre, vivre livre. Nous avons ouvert nos livres pour les faire parler et nous donner l'envie de découvrir la quintessence des mots. Nous avons récolté des voix pour vous emporter dans le rêve, la réflexion, la méditation et l'envie d'en partager les échos.
Article extrait du magazine Muse. Mesdemoiselles, c'est fini, de Géraldine Maillet. Vodka, Chanel, Heather, Lana, Margaret, Carla, Elena, Sybille, Anna, Pietra, Romy, Léopoldine, Dietra, Michelle, Angie, Louise, Lady, Kirsten, Stella et les autres. Mesdemoiselles, c'est fini. Vous êtes radiées de la planète beauté. Ah, votre CDD vient d'expirer. Votre statut de corps d'œuvre s'achève du jour au lendemain. Des indemnités? Vous êtes drôle, en plus d'être à couper le souffle. Non, franchement, vous n'y pensez pas. À votre âge et avec tout l'avenir qui vous tend les bras, ce serait indécent de réclamer. Vous avez pensé à mettre de côté quand même? Quelques défilés sur un PEL? Le dernier catalogue pour vos assurances vie? Il en faut de l'assurance pour parader en string sur les poursuites des spots brûlants et les langues déliées des rédactrices cheftaines. Vous vous y connaissez en risque? Chute stiletto, bouton de fièvre disgracieux, flébite long courrier. Vous êtes des cascadeuses de la beauté. Pas de doublure, sinon vous ne serez pas payées. Alors maintenant, ne venez pas vous plaindre. Alors c'est fini à jamais? Ou fini avec encore des espoirs de casting second couteau, une suite même confidentielle, des points de suspension de shooting? Ah non, terminé, broyé, enseveli, incinéré. Pour toutes? Oui, à part pour les rares, dont le nom est aussi connu qu'une marque. Claudia, Opel, Corsa, Christy, Maybelline, Stella Armani, il n'y a rien. Plus rien après. C'est le néant. Un immense no man's land d'ex-filles de rêve. Ludmilla, Karen, Ingrid, Lou, Luna, Luba, Ambre, Tilda, Twist, Raga, Wiz, Beth, Emeline, Andrea, Misha, Violetta, Sophie, Nounur, Aneta, Larissa, Xiaomeng. Mesdemoiselles, c'est fini. Vous n'êtes plus appropriées. Vous n'êtes plus prescriptrices. Vous n'êtes plus intransigeante, vous n'êtes plus séduisante. Vous n'êtes plus renversante, plus luxueuse, plus bandante, plus exclusif. Vous n'êtes plus. Déjà? Ah oui. Estimez-vous heureuse d'avoir tenu deux saisons? Ce n'est pas si nul. S'il vous plaît, gardez-nous quelques semaines supplémentaires, on acceptera tout, même d'être moins. D'être moins. Jamais. Vous ralentissez la course. La beauté ne supporte pas les bandes d'arrêt d'urgence et les escales pour se désaltérer. Elle trace avec mépris, confiante et altière, vicieuse et manipulatrice. Et arrêtez avec vos airs de victime sans rides. Vous n'êtes plus assez, ou vous êtes trop, mais vous avez déjà un peu. Ce n'est pas si mal dans la vie, d'avoir touché ça de près. Demandez à un boudin ce qu'elle en pense. Allez, soyons raisonnables. Laissez la place à d'autres. Plus. Enfin, moins... Vous comprenez, n'est-ce pas? Votre métier est sans avenir, sans débouché. Un peu de décence, allez. Pitié. Taisez-vous. Ne réclamez rien. Estimez-vous heureuse. Vous avez été maquillée à l'œil, coiffée à en perdre la raison. On vous a filé des fringues gratos, des fards à paupières glossies, des rouges pailletés, des chaussures presque à vos tailles. Vous avez squatté les magazines. Vous avez voyagé dans d'autres hémisphères. Vous avez été invitée à ne pas manger dans des restaurants sans gluten. Aujourd'hui, vous tombez des nues parce que le Pôle emploi, eh bien, il ne vous propose rien. Agnès, Cody, San, Sachia, Ahamilo, Imre, Souri, Adrienne, Damaris, Dinta, Anmara, Dri, Grace, Heilki, Jill, Tiga, Mélodie, Alec, Indre, Yannicke. Mesdemoiselles, c'est fini. Remontez-vous les manches et les ourlets. Vous avez beaucoup appris du cynisme de la vie pendant votre carrière météorite. Vieillissez à l'abri des regards maintenant. Et pour un nouveau départ, il y a l'embarras du choix. Femme, maîtresse, mère, chanteuse, choriste, photographe, peintre, sculpteur, styliste, actrice, agent hôtelière, vendeuse rien, peu, au mieux, comme tout le monde, quoi. Si vous aimez plonger, vous serez aux anges. Le post-machina est une longue plongée vers l'inéluctable. Une chute plus ou moins progressive, un déni plus ou moins violent, une maladie incurable cachée derrière des souvenirs obsédants. Ah, j'ai connu des centaines de filles plus stupéfiantes les unes que les autres. Mensuration assortie au teint porcelaine, cul de biche, bouche de braise, démarche iconique, sex à pile, papier glace, gravure de libido. Je ne vous entends plus, mesdemoiselles. Extrait du magazine Muse, titre de l'article, Anaïs Nin, mystique de l'amour. Son nom promène un sillage sulfureux. Pionnière de la littérature érotique, Anaïs Nin a laissé des nouvelles et surtout un journal où s'élabore sa quête de sommet émotionnel et littéraire. En 1940, un riche collectionneur de livres propose à Henri Miller d'écrire des nouvelles érotiques pour le compte d'un client anonyme au tarif $1 la page. L'écrivain américain, qui vit alors à Paris, trouve vite l'exercice insupportable et le délègue à son amante, Anaïs Nin. Entrée en littérature avec un livre sur D.H. Lawrence, l'auteur de « L'amant de Lady Chatterley », celle-ci lit le Kama Sutra et commence à écrire. Ainsi est-elle une pionnière de la littérature érotique féminine. Il lui semble d'abord avoir compromis sa véritable féminité dans ses textes, ce pourquoi elle les délaisse pendant plusieurs décennies. Lorsqu'elle les relit pour les publier en un recueil intitulé « Vénus Erotica » dans les années 1970, elle a l'agréable surprise de constater que sa voix n'a pas été étouffée autant qu'elle l'avait redouté et que, dans de nombreux passages de façon intuitive, elle a utilisé le langage d'une femme décrivant les rapports sexuels comme les vit une femme. Si les Erotica ont fait sa réputation scandaleuse, la grande œuvre littéraire d'Anaïs Nin est son journal, entamé à l'âge de 11 ans et poursuivi tout au long de sa vie. D'abord, rédigé dans une optique que l'on dirait aujourd'hui le développement personnel, le journal est devenu son laboratoire d'écrivain. Elle y parle d'art, de lecture, de psychanalyse, de sexe, bref, des rencontres. Dans les pages consacrées à la curieuse aventure littéraire des années 1940, elle raconte sa frustration quand le mystérieux commanditaire de ses histoires érotiques lui fait dire « Insistez sur le sexe, laissez tomber la poésie ». Elle en conçoit pour lui une détestation qui va grandissant et finit par écrire une lettre à cet homme inconnu. L'épître débute ainsi. « Cher collectionneur, nous vous détestons. Le sexe perd tout son pouvoir et de toute sa magie lorsqu'il devient explicite, abusif, lorsqu'il devient mécaniquement obsessionnel. C'est parfaitement ennuyeux, je ne connais personne qui nous ait aussi bien enseigné combien c'est une erreur de ne pas y mêler l'émotion, la faim, le désir, la luxure, des caprices, des lubies, des liens personnels, des relations plus profondes qui en changent la couleur, le parfum, les rythmes, l'intensité. » Après ce qui ressemble à un plaidoyer pour la curiosité et la passion, elle conclut. « Nous avons discuté à perdre haleine pour savoir comment vous êtes. Si vous avez fermé vos sens à la soie, à la lumière, à la couleur, à l'odeur, au caractère, au tempérament, vous devez être à l'heure qu'il est tout à fait racorni. Il y a tant de sens mineurs qui se jettent tout comme des affluents dans le fleuve du sexe. Seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut créer l'extase. La vie et l'œuvre d'Anaïs Nin se lisent comme une quête insatiable d'amour. Née en 1903 en France, elle émigre, jeune, aux États-Unis avec sa mère et ses frères, après que son père les a abandonnés. Mariée à un banquier muté dans la filiale parisienne de la National City Bank, la voici dans les années 1920 de retour à Paris, puis à Louisiane. Au tournant des années 1930, elle se risque à écrire son premier livre, une étude consacrée à D.H. Lawrence. Donc, c'est l'époque où elle fait le constat que son mariage ne lui apporte pas le paroxysme auquel elle aspire. Celle où elle commence à tromper son mari et à rédiger deux journaux en parallèle. Un cahier vert pour la version de son existence conforme à la morale bourgeoise et un rouge pour la dimension sulfureuse de sa vie. N'en pouvant plus de sa solitude intérieure, elle aspire à la transcendance, se voit en mystique, mais une mystique de l'amour qui cherche un dieu avec deux bras et un sexe. Sa rencontre avec Henry Miller, de 12 ans son aîné, et de son épouse Yoon, est placée sous le signe de la passion amoureuse, sexuelle, littéraire. Elle, qui à 15 ans voulait être Jeanne d'Arc, et plus tard Don Quichotte, écrit en 1932 à son amant. L'alcool n'est pas seul à pouvoir libérer la conscience. Les sentiments passionnés en sont également capables. Après ses rendez-vous avec Henry Miller, le retour au foyer conjugal est pénible. Anaïs Nin entreprend une psychanalyse. L'écrivaine entend désormais donner à ses écrits intimes un tour plus artistique. Alors, son journal, qui se fait l'écho de sa réflexion autour de l'acte créateur, acquiert une dimension littéraire qui éclipse le style plus convenu de ses romans. Ainsi, écrira-t-elle, le journal m'a appris que c'est dans les moments de crise émotionnelle que les êtres humains se révèlent avec la plus grande vérité. J'ai appris à choisir ces points culminants parce que ce sont des instants de révélation. Elle multiplie alors les conquêtes, à commencer par son analyste, impatient de celui-ci, Antonin Artaud, et aussi Gonzalo Moré, artiste péruvien et révolutionnaire communiste, sa femme, la danseuse Inka Helba Juaja, les romanciers américains Edmund Wilson, Gore Vidal, James Agee et le britannique Lawrence Durrell. Sans oublier Otto Rank, disciple de Freud, avec qui elle poursuit son analyse et qu'elle suivra un temps à New York. « Je sais qu'après Rank, j'aurais vécu tout ce que je voulais vivre. J'aurais tiré tout ce que je voulais tirer de l'amour et de la vie, du désir, des joies, du mysticisme et de la création. » Anaïs Nin, qui publie son premier roman en 1936, ne fait l'économie d'aucun scandale. Quand en 1966 paraît son journal publié par un éditeur new-yorkais dans une version expurgée, c'est un énorme succès. Des millions de lectrices s'enflamment pour le récit de cet inconnu de 63 ans à la vie consumée par la passion de l'amour et de l'art. Car Anaïs Nin jouit et souffre, cherche la raison de sa souffrance et l'explication qu'elle trouve lui fournit un motif de continuer. Ainsi écrit-elle à propos de l'état d'indigence qu'elle connaît dans les années 1940. « Jamais compris jusqu'à maintenant pourquoi j'avais dû m'appauvrir suffisamment à Paris pour aller au monde piété. C'est parce que tous mes amis y allaient et que je voulais atteindre un même niveau de pauvreté et de dénuement, connaître avec eux l'épreuve que représente la séparation d'objets aimés, tout perdre. » Je n'étais jamais unie avec eux tout aussi émotionnellement que lorsque moi aussi j'attendais sur le banc de bois et que je regardais le visage éloquent des personnes, l'histoire des objets, l'atmosphère de dépossession et de sacrifice. Extrait de la revue Muse, titre de l'article « Vengeance » de Ludmila Petrochevska. Une femme haïssait sa voisine, mère célibataire avec un enfant. Au fur et à mesure que l'enfant grandissait et apprenait à ramper, la femme laissait par terre comme par hasard tantôt un petit bidon d'eau bouillante, tantôt un bocal de soude caustique, ou allait jusqu'à répandre le contenu d'une boîte d'aiguilles dans le couloir. La pauvre mère ne se doutait de rien, car la fillette ne marchait pas encore très bien. Et elle ne laissait pas ramper dans le couloir pendant l'hiver. Mais le moment approchait où l'enfant pourrait quitter la chambre pour les vastes étendues du couloir. La mère faisait des remarques à sa voisine sur ce bocal posé en plein milieu, ou lui disait « Raya chérie, vous avez encore laissé échapper des aiguilles !» À ces mots, la voisine se ressaisissait et se plaignait de sa mauvaise mémoire. Elles avaient été amies autrefois, et comment ? Deux femmes seules, vivant dans un appartement communautaire de deux pièces, elles partageaient beaucoup de choses, et même parfois les amis qui venaient leur rendre visite, et pour leur anniversaire, elles s'offraient des cadeaux. En outre, elles se disaient tout. Mais, quand Zina se mit à promener son gros ventre, Raya commença à la haïr comme la peste. Cette haine la rendait tout simplement malade. Elle rentrait tard désormais et ne pouvait trouver le sommeil de la nuit, car elle croyait sans cesse entendre une voix d'homme venir de chez Zina, de l'autre côté du mur. Il lui semblait deviner des mots et des bruits alors que Zina vivait toute seule. Zina, elle, au contraire, s'était attachée encore davantage à Raya et lui avait même dit un jour quel bonheur c'était de l'avoir pour voisine, qu'elle était comme une sœur aînée qui ne la laisserait jamais tomber dans un moment si difficile. En effet, Raya aidait Zina à coudre la layette et l'avait accompagnée, leur venue à la maternité. Elle n'était en revanche pas venue la chercher, elle et son bébé. Et Zina avait dû passer une journée supplémentaire à la maternité, sans la layette, et était finalement rentrée chez elle avec l'enfant enveloppé dans une petite couverture toute déchirée de l'hôpital, promettant de la restituer au plus vite. Raya prétexta une maladie et la prétextait désormais tout le temps. Elle n'allait pas une seule fois faire les courses pour Zina, ne l'aida pas à donner le bain au bébé. Elle restait assise dans sa chambre avec des compresses sur les épaules. Et c'est tout. Elle ne regardait même pas le bébé, alors que Zina emmenait souvent l'enfant à la salle de bain ou la cuisine ou simplement faire un petit tour en laissant ouverte la porte de sa chambre comme pour dire « Viens voir ». Zina travaillait chez elle depuis un moment déjà. Elle avait appris à utiliser une machine à coudre car elle n'avait pas de famille et l'histoire de la gentille voisine n'était qu'un bon mot. En réalité, elle ne pouvait compter sur personne. Elle avait voulu cet enfant et maintenant c'était à elle de porter le fardeau. Quand sa fille était petite, Zina la laissait dormir pendant qu'elle rapportait l'ouvrage et récupérait sa paye, mais une fois plus grande, comme elle dormait moins, bonjour les tracas. Zina était obligée de l'emmener. Raya, elle, s'entêtait à soigner ses épaules. Elle était même en congé maladie. Mais Zina n'osait pas lui demander de garder la petite. Entre-temps, Raya avait commencé à préparer le meurtre de la fillette. De plus en plus fréquemment, alors que Zina tenait par la main sa fille trottant dans le couloir, elle remarquait sur le sol de la cuisine un verre contenant un liquide censé ressembler à de l'eau, ou sur un tabouret une bouilloire brûlante dont la poignée pendait de côté. Mais elle n'eut jamais le moindre soupçon. Du moins, gazouillait-elle toujours aussi joyeusement avec sa petite, et lui répétant « Dis maman, dis maman !» Mais avant de partir faire les courses ou travailler, Zina enfermait désormais la fillette et elle le paya cher. Cela mettait Raya en rage. Un jour où Zina était sortie, la fillette se réveilla de l'autre côté de la porte, tomba vraisemblablement de son lit et rampa jusque derrière la porte pour y pleurer. Raya savait qu'elle marchait encore mal. Elle était tombée de son lit et sans doute s'était-elle fait terriblement mal, car elle hurlait très fort tout en restant allongée contre la porte. Raya ne pouvait plus supporter ses cris et finit par enfiler des gants en caoutchouc et saisir une boîte de soude caustique qu'elle gardait dans la salle de bain. Et l'ayant dissoute dans un seau d'eau, elle entreprit de lessiver le couloir, faisant couler le liquide sous la porte où la fillette était allongée. Le cri devint un hurlement. Raya essuya le sol du couloir, nettoya tout, le seau, le balai, les gants, se rhabilla et partit voir son médecin. Après sa consultation, elle alla au cinéma, puis faire des courses et ne rentra chez elle que le soir. La chambre de Zina était sombre et silencieuse. Raya regarda la télévision, se coucha, mais ne parvint pas à s'endormir. Zina fut absente toute la nuit et toute la journée du lendemain. Raya prit une hache, enfonça la porte et trouva la chambre pleine de poussière, une tache de sang séchée au bas du lit et une large traînée menant à la porte. Il n'y avait pas la moindre trace de soude caustique. Raya lava le sol chez sa voisine, fit le ménage et vécut alors dans une attente fiévreuse. Enfin, une semaine plus tard, Zina revint, disant qu'elle avait enterré sa fille et qu'elle avait trouvé un emploi où elle travaillait par plage de 24 heures. C'est tout ce qu'elle dit. Mais ses yeux enfoncés et sa peau flasque jaunie parlaient d'eux-mêmes. Raya ne tenta pas de la consoler et la vie dans l'appartement fut désormais figée. Raya regardait toute seule la télévision et Zina travaillait la nuit et dormait le jour pour récupérer. Elle semblait avoir perdu la raison et accrochait partout des photos de sa fille. Raya allait de plus en plus mal. Elle ne pouvait plus ni lever les bras, ni marcher, même les piqûres restaient sans effet pour ses articulations. Les médecins avaient diagnostiqué la goutte. Raya en était au point où elle ne pouvait plus se faire à manger, ni même mettre la bouilloire sur le feu. Quand Zina était à la maison, elle lui donnait à manger, mais elle rentrait de plus en plus rarement, sous prétexte que cela lui faisait de la peine de se trouver là. Raya ne dormait plus à cause de ses douleurs. Lorsqu'elle apprit que Zina travaillait comme femme de ménage quelque part, tout juste si ce n'était pas dans un hôpital. Raya lui demanda de se procurer un antidouleur très puissant, comme de la morphine. Sina répondu que c'était impossible. « Je ne monte pas de coup pareil. »«
Alors, il faut que je prenne plus de cela. Donne-moi une trentaine. »«
Non, je ne le ferai pas, » dit Sina. « Je ne t'aiderai pas à mourir. »«
Mais je ne peux plus lever le bras, » dit Raya.
« Tu ne t'en tireras pas si facilement, » dit Sina. Alors, la malade, dans un effort surhumain, attrapa avec ses lèvres le petit flacon, arracha le bouchon avec les dents et versa tous les comprimés dans sa bouche. Sina resta assise à son chevet. Raya mit longtemps à mourir. Quand le jour se leva, Sina dit « Et maintenant, écoute-moi. Je t'ai menti. Ma petite Léna est bien en vie. Elle court vite. Elle habite dans un orphelinat où moi, je travaille comme femme de ménage. Et ce que tu as déversé sous ma porte, ce n'était pas de la soude caustique, mais du bicarbonate de soude, tout simplement. J'avais interverti les deux. Et le sang sur le sol, c'était Léna qui s'était cogné le nez en tombant du lit. Donc, tu n'es pas coupable. Tu n'es absolument pas coupable. Personne ne pourrait prouver le contraire. Mais moi non plus, je ne suis pas coupable. Nous sommes quittes. » Et elle vit un heureux sourire se dessiner lentement sur le visage mort.
Je vais vous lire quelques poèmes de Mohamed El Amraoui, extraits de son recueil « Des moineaux dans la tête », sorti chez Jacques André dans la collection « La marque d'eau ». Voici. Peut-être ici. Je dis peut-être. Je dis peut-être la pensée est comme la blessure. Je dis peut-être la pensée est comme la blessure que je vois sur le mur. Chaque matin, le volume de ses lèvres grossit, et quelquefois des mots que mes yeux n'ont pas l'habitude de voir s'écoulent entre ses dents jusqu'à mes pieds. Mes pieds dessinent des traits hiéroglyphes qui renouvellent leur sens chaque jour. Je dis peut-être, le mur n'existe-t-il qu'en moi-même. Je dis le mur est le mur de moi-même, ou un miroir d'où sortent les mots pour se changer en un réel mercuriel. L'idée du mur n'a d'existence et d'importance que grâce à la blessure d'où sortent les mots. Poème d'amour en état de guerre. Je hume dans tes seins l'odeur de la terre que mes pas ont quittée. Je hume l'oreiller de tes rêves quand tu dors avant moi. Et quand tu dors après moi, je hume la brise de ton souffle quand l'air devient fumée, car leur maison détruite, les gens habitent leurs rêves. Et moi, depuis 40 ans, je n'habite que le vent de ton parfum. Je n'ai d'autre maison, d'autre toit que ton cœur. Car l'amant, quand les guerres le chassent, que les exils le poursuivent, se jette dans les bras de l'aimé. Et si je voulais monter au pays, je laisserais mon poème grimper à tes nattes. Si je voulais voyager, je chevaucherais tes sandales sous la pluie, sous les arbres et nuitamment sous la lumière de la lune. Si je voulais dormir, je déplierai les lignes de ta dernière lettre. Gloire à celui qui a étreint l'amour sous la mitraille. Gloire à celui qui a dit que la paix est une herbe qui pousse dans le cœur de l'aimé. membre du jury Renaudot, Franz-Olivier Gisbert vient de sortir le livre « Belle d'amour » chez Gallimard, dont l'héroïne nous plonge dans le XIIIe siècle. Il s'agit d'une fantaisie historique qui nous mène de rebondissement en rebondissement à travers un Paris poisseux à l'Égypte, en passant par Tunis ou la Syrie. Nous voici au début de l'histoire. La fille à la Sansonnette. Anjou, 1246. C'est l'une des dernières images que je garde d'eux. Mes parents gisant dans la gadoue, les poignets et les chevilles liés comme des chèvres au marché des bestiaux. J'avais passé une partie de la journée à essayer de les raisonner. « Pourquoi n'abjurez-vous pas, coque fredouille ?»« Pardonne-moi, dit mon père, mais je suis incapable de mentir. Y a pas plus facile, objectai-je. La vie est quand même une farcerie. » « Pas pour nous, murmura ma mère. Notre foi est notre béquille et elle nous interdit les mentements. Toi, tu as toujours été plus forte que nous, Tiffany. » Pour rire, un soldat affligé d'une verrue qui lui faisait un second nez avait vidé un pot d'aisance sur mes parents. Les nettoyant avec soin, j'étais si près d'eux que mon père a pu me souffler sans être entendu. « N'avoue jamais. » Et fuis loin, le plus loin possible, Tiffany. Y a plus rien à faire ici. Les gens comme nous n'ont rien à attendre du royaume des Francs. La mauvaise odeur persistant, je suis allée chercher un autre seau d'eau. Quand je suis revenue, mes parents étaient debout. Après avoir dénoué la corde qui attachait leurs chevilles, les soldats les faisaient avancer en les menaçant de leurs épées. « Où les emmenez-vous » m'écriai-je. « Au ciel. Vous disiez qu'ils ne le méritaient pas. Eh bien alors, ils vont aller au feu. » J'étais tout près d'eux. Mon père a fait semblant de tomber et je me suis précipitée pour le soutenir, le temps qu'il me glisse à l'oreille quelque chose que je n'ai pas envie de répéter et qui allait changer ma vie. J'y pense au moins une fois par jour. C'est depuis ce jour-là que j'ai les yeux morts. Cherchez bien, vous ne trouverez jamais rien dedans, ni haine, ni remords, ni désir de vengeance. J'ai le regard inexpressif de ceux qui se sont retranchés du monde après avoir trop souffert, trop pleuré, trop vécu. Mais ne vous y fiez pas, c'est une ruse, celle des survivants qui ont décidé de passer inaperçus dans notre monde de brutes. C'était un temps à Brouet et à Corbeau. Depuis plusieurs jours, le soleil vivait caché, il pleuviotait souvent, le ciel bas suintait la tristesse des fins d'automne. Les forêts et les champs soupiraient en songeant à ce qui les attendait. « Je suis belle de nuit le jour, et belle de jour la nuit, on m'appelle belle d'amour, parce que je suis belle toujours. » C'était ce que je chantonnais sous mon ramas de vieilles ardes, en marchant comme une somnambule sur la route boueuse. Répandant autour de moi une odeur aigre, j'avais le sentiment de trébucher à chaque pas. Quand je passais devant les gens, ils n'avaient qu'une envie, détourner les yeux. Mais n'était-ce pas précisément ce que je recherchais, dissimulé sous mes chiffons et coiffé d'un ridicule bonnet en peau de chien? Je jetais sans cesse des regards furtifs par-dessus mon épaule parce que je redoutais d'être suivi par la maréchaussée, l'inquisition, des meutes, de loups, des mâles en chaleur, en somme, par le mal. Je portais un sac en drap sur le dos, et dans ce sac il y avait un luth, un couteau, une gourde d'eau, quelques défroques, mais pas de quoi se changer vraiment. S'il m'arrivait de me laver, on aurait dit que c'était à la terre, à en juger par le gris de ma peau. Chez moi n'étaient propres que les dents, blanches comme du lait. Il y a longtemps que j'étais sur les routes, au moins 4 mois. Parfois j'avais l'air pressé, mais je n'accélérais jamais longtemps, une lieue ou deux, pas plus. puis ralentissait le pas avant de me traîner en cherchant toutes les occasions de m'arrêter et de m'asseoir. Par exemple, quand je rencontrais quelqu'un ou quelque chose sur mon chemin, une fleur, un enfant, une rivière, un mendiant. Ce jour-là, ce fut d'abord un escargot, un gros bijou humide glissant au corps luisant et au toit nacré, qui s'était empégué dans des cailloux en traversant la route. Après l'avoir écrasé sans le faire exprès, je m'assis près de lui, le pris délicatement entre le pouce et l'index, le porter à ma bouche et lui murmurer à l'oreille « Pardonne-moi ». Je restai un moment dans la même position, comme si j'attendais une réponse. L'escargot reprit confiance. Le réflexe de rétraction passé, il commença à se détendre et à s'étirer avant de darder ses yeux dansant au bout de ses tentacules. La coquille cassée, il bavait une mousse blanche en cherchant éperdument ma bouche, comme s'il voulait m'embrasser. Je posai un baiser sur ses petites lèvres tremblantes, mais ce baiser tourna mal. Soudain, écoutant ma faim, j'arrachai ce qui restait de la coquille et gobai l'escargot d'un coup, de la tête aux muscles, sans le mâcher. « Pardonne-moi, » répétai-je en léchant le mucus qu'il avait laissé sur mes lèvres. J'avais honte. Dans la journée, je m'arrêtais souvent pour manger. Des racines, des feuilles, de l'herbe, des pommes ou des poires sauvages. Je dormais dans les champs, au milieu des vaches, pour me protéger des loups et des chiens errants. Je me réfugiais dans les étables quand il pleuvait. J'aurais été bien incapable de dire quel jour on était, mais je sentais venir l'hiver au froid qui me mordait la peau, le matin, quand il ne me rongeait pas les os et les sangs. Un après-midi, entre Loudoun et Saumur, une petite neige dentue tomba, qui m'aurait transformée en statuette de glace si je ne m'étais retrouvée comme par miracle devant le portail d'une abbaye. Tremblant et claquant des dents, je fus accueillie par les moniales qui m'allongèrent sur une couche près d'une cheminée avant de me donner, quand je fus réchauffée, mon premier repas depuis longtemps. C'était une sorte de purée noire, très épicée, qui aurait cuit pendant des années. Elle laissait dans la bouche le goût de sciure humide du rutabaga. Après l'avoir avalée, j'ai failli m'évanouir en apprenant que c'était du ragoût de chien. Je ne mangeais jamais de blessures sanglantes, ni du bœuf, ni du chien. Je fus émue par la compassion des sœurs qui, pendant plusieurs jours, furent aux petits soins. Des saintes. Après m'avoir retapée, elles assurèrent ma pitance en échange de menus travaux. Dommage qu'elles fussent si peu causantes. J'aurais bien aimé leur parler. Mais elles me fuyaient comme elles fuyaient tous les êtres vivants. Impossible d'accrocher leur regard, toujours tourné vers le ciel dans lequel ils volaient, bien plus haut que les oiseaux. Je fus affectée, entre autres, au ramassage des ordures, au curage des latrines, ainsi qu'à la récupération des peaux et des cornes à la boucherie. Cette abbaye était Notre-Dame de Fontevraud, au lieu de la royauté et du christianisme. Y avait notamment été enterré, quelques années auparavant, Richard Cœur de Lion et Aliénor d'Aquitaine. D'où la gravité sépulcrale qui y régnait, troublée de temps en temps par des meuglements, des cocoricots, ou des sonneries de cloches. Ici, personne ne fatrouillait, sauf en pensée, quand on était seul avec soi. Fondée par l'ermite Robert d'Arbrissel, l'abbaye de Notre-Dame de Fontevraud avait longtemps permis aux hommes et aux femmes de cohabiter en tout bien, tout honneur, les uns et les autres, surmontant leurs tentations charnelles. Après quoi, sur la pression de l'Église, les sexes furent séparés et elle avait été divisée en plusieurs monastères, notamment pour les lépreux et les pécheresses repenties. Mon travail m'obligeant à aller sans cesse d'un monastère à l'autre, je rencontrai beaucoup de moines qui devinrent entreprenants dès que j'eus retrouvé mes formes et mes couleurs. Je répondais à leurs avances par des soupirs appuyés. S'ils insistaient, je leur hurlais dessus. Un jour, l'un d'eux réussit à échanger quelques phrases avec moi, un grand haricot, la peau sur les os, qui parlait comme s'il priait, les yeux baissés, la voix mourante. Après les présentations, il fronça les sourcils. Tiffany est un prénom qui ne sonne pas français. Mon vrai prénom est Tiffaine, mon père. Mes parents m'ont surnommée Tiffany à cause de ma grand-mère maternelle qui était anglaise. Quelle horreur ! Du sang anglais ! N'est-ce pas à cause de lui que vous semblez avoir si peur ? Je n'ai pas peur, mon père. Je fuis quelque chose qui me rattrape toujours. J'ai vécu l'enfer. Je n'avais pas envie de poursuivre cette conversation. Je secouai la tête et retournai à mon travail pendant que le moine marmonnait, la gorge serrée. « Vous êtes si belle, je suis sûre que vous êtes éternelle. » Né à Naples, Eri de Luca décide de rejoindre Rome à 18 ans et s'engage dans les courants révolutionnaires. En tant qu'auteur, il reçoit le prix Femina étranger avec Monte d'Idio en 2002, le prix européen de littérature en 2013 avec Trois chevaux et le prix Jean Monnet en 2014 avec Le tort du soldat. Eri de Luca vient de sortir « La nature exposée » chez Gallimard, traduit de l'italien par Daniel Valin. Tout en poésie, l'écrivain signe un conte aussi contemporain qu'atemporel, un récit qui tresse le drame des migrants et les interrogations théologiques, le geste artistique et le sens du sacré. Écoutons un passage. J'habite près de la frontière, au pied de montagnes que je connais par cœur. Je les ai apprises en chercheur de minéraux et de fossiles, puis en alpiniste. Le commerce de ce que je trouve et de petites sculptures en pierre et en bois me procure un gain aléatoire. Je grave des noms pour les amoureux endurcis qui les préfèrent sur des branches et des cailloux plutôt que sur des tatouages. Ils durent plus longtemps sans pâlir. Je cherche des racines sèches, des pierres qui ressemblent à des lettres de l'alphabet. Facile à dénicher, celles en forme de cœur, en remontant le lit des torrents à sec. Les autres formes plus irrégulières, je les trouve dans les pierriers où s'entassent les débris des parois. Dans la nature, il existe des abécédaires. On fait appel à moi pour de petits travaux de réparation de sculptures, le plus souvent dans des églises. Chez nous, on tient à impressionner avec des décorations d'artistes. Moi, je n'en suis pas un. Je répare des nez, des doigts, les parties les plus fragiles. Quand j'étais jeune, j'ai pu étudier au lycée artistique. Le bac en poche, je suis partie travailler ensuite à la mine de charbon. Depuis qu'elle a fermé, je me débrouille avec ce que je trouve. Je sortais de mes heures de travail dans la galerie et au lieu de descendre au village, je grimpais dans la montagne. Poussée par un désir de neige, je me lavais les mains et le visage avec. Je montais en courant dans le bois. Une saine transpiration sortait par tous les pores de ma peau. Je me hissais dans les branches d'un pin, sembro, en me poissant les mains de résine. De la scène la plus haute, je regardais l'horizon pour me débarrasser de la mine. Un ébrouement de chien sorti de l'eau parcourait mon dos. J'ai gardé mon admiration pour les artistes, un sentiment de spectateur et non de collègue. Proche de la soixantaine, je monte encore bien sur les échafaudages et les montagnes. J'habite la dernière maison hors du village. Pour moi, c'est la première en descendant des bois, à quelques mètres d'une petite cascade qui me donne de l'eau courante. Un petit filet coule même quand il gèle. Depuis quelque temps, des étrangers désorientés arrivent au village. Ils essayent de passer la frontière. Les autorités laissent faire pour ne pas avoir à s'occuper d'eux. Nous vivons sur une terre de passage. Certains d'entre eux pourraient s'arrêter, mais aucun de ceux qui sont arrivés jusqu'ici ne l'a fait. Une adresse en poche leur sert de boussole. Pour nous qui n'avons pas voyagé, ils sont le monde venu nous rendre visite. Ils parlent des langues qui font le bruit d'un fleuve lointain. On a créé pour eux un petit service d'accompagnateurs au-delà de la frontière. Nous sommes trois, des vieux, parce que ici on est vieux à 60 ans. Nous trois seulement savons par où passer, même la nuit. Ils sont cocasses, ces États qui mettent des frontières sur les montagnes. Ils les prennent pour des barrières. Ils se trompent. Les montagnes sont un réseau dense de communication entre les versants, offrant des variantes de paysages selon les saisons et les conditions physiques des voyageurs. Nos pistes à tous les trois débouchent de l'autre côté sans rencontrer âmes qui vivent. Les frontières fonctionnent dans la plaine. On dresse des barbelés et personne ne passe. Impossible en montagne. Se faire accompagner à un tarif. Chez nous, ce sont les deux autres qui l'ont fixé. Et moi, je préfère que ce soit eux qui décident de la rémunération. Les voyageurs payent comptant, forcés de faire confiance. On utilise un anglais de 10 mots, le jargon des déplacements. Certains essayent de passer sans nous et se perdent. Ils s'épuisent et nous les trouvons morts, picorés par les corbeaux. Nous leur donnons une sépulture. Nous emportons une pelle à chaque voyage. De loin, on croit voir un passage, puis de près, de l'intérieur, on ne le trouve plus. On voit arriver des femmes, des enfants seuls, pas question de réduction. L'accompagnement n'en est pas plus léger, il est même plus long. S'il s'agit d'hommes costauds, je les emmène sur un chemin difficile qui raccourcit le trajet. Dans certaines parties plus raides, je leur attache une corde autour de la taille et je les hisse. C'est pour ça que je leur demande d'avoir un sac à dos et les mains libres. Avec les femmes et les enfants, on suit une piste plus lente. Je contrôle leurs vêtements et leurs chaussures. Je ne pars pas sans une bonne paire de chaussures et des vêtements chauds, même en été. Les deux autres les prendraient même les pieds nus. Ils se font plus d'argent maintenant que tout le reste de leur vie. L'un est forgeron, l'autre boulanger. Nous nous connaissons depuis notre enfance turbulente. Ensemble, nous avons fait de l'escalade, fouillé sous toutes les pierres quand on nous payait les vipères capturées. Nous avons dormi dans les montagnes et sous les arbres. Le forgeron est grand et trapu. Il laisse des empreintes d'ours. Le boulanger est le plus âgé de nous trois. Ses mains sont cuites comme des miches de pain, plus bonnes à rien. Mais ses pieds marchent bien et avec eux, il s'en met plein les poches. Nous ne partons pas ensemble, chacun fait son propre voyage. Il nous arrive de nous croiser dans nos allées et venues. Nous sommes sortis de la même avalanche qui nous a traînés sur des centaines de mètres dans sa soudaine obscurité en plein jour. À la fin de sa course, elle nous a recrachés comme des noyaux dépulpés. Quand on tombe, la lenteur des premiers mètres est effrayante. Puis on accélère, on roule, on se cogne, on se dispute avec la mort. J'ai revu l'air au bout de la descente, une fois expulsé du sac, stupéfait d'être vivant et entier. Je me suis levé. J'ai vu le forgeron, la tête en bas dans la neige, les pieds qui sortaient. Je l'ai extrait de là et j'ai soufflé dans ses poumons jusqu'à ce qu'il me crache à la figure sa première expiration. Le boulanger était plus loin, mais le visage a l'air libre, évanoui. Quelques gifles ont suffi. Il avait un bras cassé. Vivant tous les trois, mieux qu'impossible. Le soir, nous avons vidé une bonbonne de vin de 5 litres, ce n'était même pas trop. Notre village n'est pas un village pour les femmes, elles sont parties en ville, mariées ou non. Elles ont par tradition une beauté de croisement avec des gens de passage. Elles ont une caravane dans le sang. Les hommes restent ici, chez nous. Le monde vit avec cette inversion et ils s'en portent bien. Nous sommes restés un pays d'hommes et de bêtes. L'été, je vends aux vacanciers mes trouvailles et les sculptures que je fais en hiver. J'installe tout ça sur une table en bois brut devant chez moi. Ils s'arrêtent par curiosité. Le temps est lié pour eux à l'achat. Ils ne s'arrêtent pas s'ils n'ont pas d'argent. Ils le disent et s'excusent même en passant leur chemin, comme s'ils s'adressaient à quelqu'un qui tend la main. Ils n'imaginent pas que je puisse offrir mes objets à ceux qui s'arrêtent pour regarder, pour toucher, pour une question. Ici, il y avait des poissons, des coraux, des coquillages. Les montagnes sont faites de leurs restes. À ceux qui disent que nous sommes des montagnards, je réponds qu'avant nous avions la mer. Je le prouve avec les poissons gravés sur le plat d'une pierre, l'empreinte d'une arête ou d'une valve d'huître. Je fais prendre l'air aussi à mes bouquins, je les offre en lecture, je fais office de bibliothèque municipale qui n'existe pas. Les livres m'ont servi à connaître le monde, la diversité des personnes qui sont rares dans le coin. Compacte contre la paroi au nord, il garde la maison au chaud. Ma vue a baissé et je lis moins. Je repousse l'achat d'une paire de lunettes. Le corps a ses générations, la dernière va un peu à l'aveuglette. C'est pour ça que je sais m'orienter la nuit en montagne. Les rencontres avec les voyageurs se font à l'auberge. D'habitude, un seul entre, il vient au nom des autres. L'un de nous se trouve là, sinon il attend. Il n'est pas nécessaire de se mettre à l'écart. Ici, on sait tout sur tout le monde, les torts, les compétences, les trahisons. Ils font un ensemble avec les eaux. On laisse vivre sans mettre son grain de sel. À 25 ans, Luis Sepúlveda, militant contre la dictature chilienne, fut détenu pendant plus de 2 ans et demi dans les geôles du régime de Pinochet. Sa peine est commuée en exil. Il vit maintenant en Espagne et est reconnu comme l'un des auteurs hispanophones les plus connus dans le monde. Il vient de sortir « La fin de l'histoire » chez Metaillé, et traduit de l'espagnol par David Fauquemberg. Écoutons le début du chapitre 2. 33 degrés de latitude sud. Cela faisait 20 ans que je n'avais plus remis les pieds dans cette ville aux étés infernaux et je ne comptais pas m'y attarder. Je venais pour un rendez-vous que je n'avais ni cherché ni désiré. Et si je le faisais, c'est parce que personne ne peut échapper à son ombre. Quelles que soient les routes que l'on prend, l'ombre de ce que nous avons fait et de ce que nous avons été nous poursuit avec la ténacité d'une malédiction. Je donnai au chauffeur du taxi l'adresse de l'hôtel et me calai sur la banquette arrière pour profiter de la climatisation en priant pour ne pas être tombé sur un taxi bavard. Mais je n'eus pas cette chance. À peine avait-il démarré qu'il se mit à déblatérer contre la présidente, lui reprochant jusqu'à la chaleur de février. Heureusement qu'elle s'en va. Vous savez pourquoi elle a été élue présidente ? Demanda-t-il en tournant à moitié la tête. « J'imagine que vous allez me le dire de toute façon. »« Parce que c'est une femme, une communiste et évidemment la fille de Bachelet. »« Mais maintenant, on va avoir un président digne de ce nom, un qui sait diriger le pays, un qui est riche et qui sait s'y prendre en affaires, quelqu'un comme moi avec l'esprit d'entreprise. » Il y a des types qui exigent à grands cris qu'on leur enfonce le canon d'une arme dans la bouche en leur offrant le choix entre la balle et le silence. Mais je venais à peine d'arriver et je n'avais pas de flingue sur moi. La voiture était de marque coréenne, une imitation de berline haut de gamme avec l'inévitable désodorisant en forme de sapin accroché au rétroviseur. « Vous savez qui était le père de la présidente ?» insista le chauffeur. « J'imagine que vous allez me le dire, même si je ne vous le demande pas. » « Encore un communiste, » déclara-t-il en adressant un regard courroucé au journal posé sur le siège passager. En première page, la présidente, qui allait bientôt quitter son poste, toute de blanc vêtue et arborant l'écharpe tricolore. Elle souriait comme pour s'excuser de ce pays peuplé d'un surpassable crétin. La seule pédagogie efficace en ces circonstances aurait consisté à enfoncer un flingue dans la bouche de ce type et à lui rappeler qu'Alberto Bachelet, alors général de l'armée de l'air, était resté fidèle à Allende et qu'il avait payé cette loyauté au prix fort en étant frappé, insulté, torturé et assassiné par ses propres frères d'armes. « Vous êtes à Santiago pour affaires ?» interrogea le chauffeur. « Non, je suis chirurgien, expert en lobotomie. »« Et c'est quoi ça ? Pardonnez mon ignorance. »« J'ouvre le crâne à tous les tarés qui me tombent sous la main et je retire la merde qui les empêche de penser. »« Passez-moi le journal. » Apparemment, il avait saisi l'allusion parce que d'un coup, il ferma son clapet. Le taxi empruntait une autoroute qui m'était inconnue, le long du rio Mapocho. S'étalaient les vieux faubourgs populaires malmenés par l'impitoyable soleil de février, et à travers le voile grisâtre du smog se profilaient les silhouettes des plus hauts gratte-ciels de la ville. En regardant la photo du journal, je repensais à un autre homme noble et loyal, Luis Lorca. Un jour de 1971, il m'avait montré une petite blonde en uniforme de lycéenne qui marchait en tête d'un défilé des jeunesses socialistes. C'est la fille du général Bachelet. Que deux camarades du service d'ordre la suivent comme son ombre, il faut la protéger, avait alors déclaré Luis Lorca, non sans raison. À l'époque, les paramilitaires de l'extrême droite se montraient assez agressifs, et, bon Dieu, nous leur rendions coup pour coup. À l'hôtel, on me remit la carte magnétique de ma chambre, et une fois à l'intérieur, j'inspectai les tiroirs, ouvris les portes, jetai un coup d'œil par la fenêtre, guettant dans la rue quelque chose d'inexplicable et qui n'était déterminé que par la force de l'habitude. Je suis un homme de la seconde moitié du XXe siècle, de ceux qui dorment peu et qui, sans jamais avoir lu le fameux ouvrage de Lobsang Rampa, possèdent un troisième œil sur la nuque. J'ai étudié ensuite le plan de l'hôtel récupéré à la réception, mémorisé les itinéraires de fuite possibles, et comme j'avais encore 2 heures devant moi avant mon rendez-vous, je m'allongeai sur le lit. Loin d'être fatigué à cause de mon lever matinal et de la chaleur, j'avais tous les muscles en tension, alerte, comme aux temps anciens où cette ville avait été une souricière, et pour chasser les démons du souvenir, je fermais les yeux et me repassais les événements des derniers jours. L'appel qui m'avait fait quitter la tranquillité de Puerto Carmen, à l'extrême sud de l'île de Chiloé, avait l'écho caractéristique des menaces. Je n'ai pas de téléphone portable ni d'ordinateur connecté à Internet, rien qui puisse permettre de me suivre à la trace, mais personne n'est plus à l'abri de l'œil du Big Brother qui nous surveille depuis l'espace. Il suffit de s'asseoir devant un écran, de taper Google Earth et le simple déplacement du curseur sur un continent, un pays, une région, une ville, un quartier nous livre jusqu'aux détails récents les plus intimes du sujet recherché. Je suppose que c'est comme ça que Kramer m'a retrouvé. Je me croyais en sécurité à Puerto Carmen, où je ne faisais rien d'autre que ramasser du bois avec l'aide d'El Petiso, le petit Rabelais, pour nous approvisionner en chaleur en vue du long hiver austral. Je ne désirais rien d'autre que contempler la mer avec Véronica, à mon bras et sentir son regard glisser de la berge aux premières vagues, puis de là vers les îles Kailan et Leytek, jusqu'à se fixer sur la rive indécise de la Patagonie continentale. Là-bas, ses pupilles cherchent toujours la cime enneigée du volcan Corcovado, puis elles s'immobilisent, impassibles, insensibles à mes promesses de franchir un jour le canal pour aller voir les baleines bleues s'accoupler dans les eaux du golfe de Corcovado. Ce jour-là, El Petiso et moi profitions du temps clément de février et de ces longues journées pour ramasser du bois et réparer le matériel de pêche, tandis que Véronica prenait le soleil, quand mes deux bergers allemands, Sarko et Laika, distinguèrent le bruit d'un véhicule qui approchait. Ils grognèrent en hérissant le poil et coururent s'asseoir protecteurs aux pieds de Véronica. Quelques minutes plus tard, nous vîmes la Land Rover remonter la piste côtière. Certains groupes aguerris aux alertes réagissent sans mots. Et celui que nous formons, Véronica, El Petiso et moi, en fait partie. Tandis que le véhicule se garait, El Petiso accompagna Véronica jusqu'à la maison avant de revenir en courant. Il me tendit le Makarov 9 mm avec une balle déjà engagée et marcha jusqu'à la remise à bois, son petit copain à la main, un fusil à pompe Remington 870 avec des cartouches à billes d'acier. Un homme jeune descendit du Land Rover. En guise de salut, il désigna les chiens. « Ils sont méchants ?»« Ça dépend. » Il prit ma réponse pour une invitation à s'approcher, ce qu'il fit lentement. Tout en marchant, il fit coulisser la fermeture de son blouson et écarta les bras pour montrer qu'il n'était pas armé. « Juan Belmonte ?» demanda-t-il sans quitter des yeux les chiens qui montraient leurs crocs. « Ça dépend. » ai-je répondu en les calmant. Un torero célèbre portait ce nom dans le temps. Un lecteur d'Hemingway, qu'est-ce que je dois savoir d'autre sur vous ? L'homme s'immobilisa devant moi et tourna la tête vers El Petiso, qui le tenait en joue avec le Remington. « Vous devez être Valdivia, dit-il. « De Valdivia, Pedro de Valdivia, corrigea El Petiso, convaincu depuis toujours que le « de » qui précédait son nom lui donnait un air de noblesse, un peu comme le « von » des Prussiens. « On m'avait prévenu que je ne serais pas accueilli en fanfare, » reprit l'homme. Il sortit un objet de la poche intérieure de son blouson. C'était un téléphone satellite dernier cri. Il déploya une petite antenne, composa un numéro, patienta quelques instants, puis me tendit le combiné. Alors, après 20 ans passés à tenter de l'oublier, j'entendis la voix de Kramer. « Belmonte, mon vieil ami au nom de Torero, mon émissaire va te remettre une enveloppe contenant de l'argent et un billet d'avion pour Santiago. Non, ce n'est pas la peine de me remercier, et tu ne peux pas non plus refuser notre invitation, surtout si on considère tous mes efforts pour démontrer à la police chilienne que tu n'as rien à voir avec l'assassinat d'un certain Allemand, ex-agent de la Stasi, il y a 20 ans en terre de feu. »